Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être là aussi nombreux et nombreuses cet après-midi à la salle des fêtes de Saint-Laurent-en-Royans. Il fait très beau dehors, la météo ne joue pas en notre faveur et en plus il y a le carnaval à Pont-en-Royans. Donc ça fait concurrence de manière festive. Mais on maintient cette table ronde parce que ce sujet-là est important à traiter. Et donc c'est une table ronde qui va être animée par mes soins pour le compte de Radio Royan-Vercors, la radio associative du périmètre. Une réflexion autour du film Terreaux locaux, cultiver l'accueil et notamment autour du travail. Et pour ça, il y a pas mal d'invités qui sont... à côté de moi. On va essayer que chacun, chacune ait le temps de parole pour présenter son association. Cet après-midi, elle a été organisée par un collectif d'habitants, habitantes, mais aussi d'associations autour du film Terreaux locaux, cultiver l'accueil. Terreaux locaux qui sera donc projeté à 17h. Pour découvrir cette initiative. C'est un film qui a pas mal tourné du côté de Romans, au Chalutier. Il a été projeté plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est chez nous, dans le Royan. Donc, on est très heureux et heureuses de cette projection. Et peut-être, on va commencer par un premier tour de table qui n'est pas ronde pour juste donner, vous présenter en fait qui vous êtes, quelle structure vous représentez, et puis après on déroulera cette thématique du travail et de l'accueil tranquillement. Peut-être on commence à ma droite.
Élise, moi je représente l'ASTIR, l'association de soutien à tous les immigrés à Romans. Je suis bénévole. À l'ASTI depuis 2020, à Vienne et puis à Romans. Est-ce que je présente déjà l'association ?
Tu peux dire quelques mots, ouais.
Alors l'association sur Romans, elle s'occupe surtout de l'aide administrative aux personnes qui sont de nationalité étrangère. On est sur de l'aide juridico-administrative par rapport aux demandes de titre de séjour, regroupement familial, réunification familiale, ou de l'accès à la nationalité aussi, naturalisation, déclaration de nationalité, etc. On organise des manifestations aussi. La dernière en date, c'était une manifestation pour la journée contre le racisme. Il y a tous les ans la journée internationale des migrants. Et puis, de manière... plus contextuel lors des lois qui peuvent être votées sur les sujets de migration, évidemment là aussi il y a des manifestations qu'on contribue en tout cas à organiser. Et puis il y a évidemment des liens aussi qui seraient entre les bénévoles et puis entre les personnes accompagnées, qui fait qu'on va les accompagner sur d'autres problématiques sociales ou autres.
Et toi, Élise, t'es avocate, et du coup, aussi. Tu nous donneras, une fois qu'on aura fait ce premier tour d'horizon de toutes les structures, quelques balises juridiques aussi, pour qu'on sache qu'on ait tous et toutes le même niveau de connaissance autour de cette question de l'exil. Dorine, à toi.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, je suis Dorine, salariée de l'association Terreaux locaux. Donc Terreaux locaux, c'est un lieu d'accueil mixte à Notre-Dame-de-Lozier, petit village d'environ 500 habitants au nord de Vinay. Nous sommes un chantier d'insertion, donc qui accueillons deux tiers de personnes qui ont eu un parcours migratoire et qui ont le statut de réfugié ou une protection subsidiaire, et un tiers de personnes en insertion qui sont du territoire et qui ont plutôt un parcours très éloigné de l'emploi, avec des difficultés sociales liées, qui fait qu'il y a un accès à l'emploi qui est compliqué. Donc, pour avoir un petit peu la mesure de la capacité, donc on accueille 18 salariés en insertion. Notre équipe de salariés permanente regroupe 11 salariés, plus 2 services civiques. Et on a également surtout une cinquantaine de bénévoles qui sont très impliqués. Donc nous, nos activités en insertion se basent sur du maraîchage biologique, ainsi qu'un fournil bio, donc du pain au levain. Donc voilà, les salariés sont sur ces deux activités-là. Nous avons aussi vocation à redynamiser le territoire rural, local. Donc on organise pas mal d'animations, notamment avec le marché hebdomadaire, une fois par mois un grand marché festif qui regroupe plusieurs producteurs locaux. Et deux fois par an, donc à Noël et début juillet, un très grand marché qui accueille environ 1000 personnes chaque année avec des concerts, enfin voilà, des animations un petit peu plus grandes. Important quand même. Terreaux locaux, on propose surtout un accompagnement global du salarié en insertion. Alors global, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on permet un apprentissage de la langue française avec des cours de français langues étrangères. On accompagne justement dans la construction du parcours professionnel, on accompagne à la levée de tous les freins sociaux, donc ça veut dire l'accès à la santé, l'accès au logement. Donc pour ça, il y a des habitants qui accueillent parfois les salariés en insertion, mais également on fait de l'intermédiation locative, c'est-à-dire que Terreaux locaux loue des appartements qu'ils sous-louent après aux salariés, et puis l'objectif c'est qu'après le salarié puisse trouver un appartement en son nom propre. Je pense que pour l'instant, c'est tout. Il y aura certainement plus de détails dans les questions.
Ouais, on aura le temps d'y revenir. Merci, Dorine. Hélène, toi, tu as une double casquette.
Il se trouve que je suis aussi administratrice à Terreaux locaux. Donc, mais là, je vais vous parler de notre association à Vinay qui s'appelle Toi et Noix, qui a 11 ans maintenant. Alors, depuis 11 ans, on a accueilli une douzaine de personnes. On en accueille encore. Alors, principalement des demandeurs d'asile, c'est-à-dire en procédure, qu'on accompagne sur leur dossier de demande d'asile, avec des propriétaires qui nous facilitent quand même grandement parce que c'est une association qui a des donateurs réguliers qui permettent d'assurer. Donc, on a des propriétaires qui nous louent des appartements à très bas prix, faut quand même le dire, par rapport au prix du marché dans Vinay, par exemple. On a de l'aide là-dessus. Et puis, on a très fort lien avec Terreaux locaux, du fait qu'on était à Vinay avant que le projet s'installe à Notre-Dame-de-Lozier. C'est vrai qu'on a eu des contacts même avant la création, puisque les créatrices étaient venues voir un petit peu ce qui se passait dans ce domaine-là sur le territoire. Et puis, des liens extrêmement forts, on en reparlera à l'occasion. C'est vrai que quand il y a un problème, entre guillemets, d'insertion ou de droit au travail avec des salariés de Terreaux locaux, il arrive que notre association reprenne en compte pendant un temps l'aide matérielle, qui peut être une aide alimentaire, une aide au logement, une aide, etc. Voilà. Ce qu'est Toi et Noix.
Merci Hélène. Et une association qu'on connaît bien dans le Royan, c'est R. Marie et Pierre, vous représentez R. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots aussi sur ce que fait l'association?
Oui, alors R, ça veut dire accueil interculturel en Royan. Donc voilà, ceux qui sont d'ici connaissent. Donc on est né il y a 12 ans et on accueille plutôt des familles, nous. Puisque, loin des centres urbains, mais avec école, maternelle, primaire et collège, c'est plus facile pour une famille d'être accompagnée que pour des jeunes adultes. Voilà, donc depuis... donc notre principe, c'est qu'on loue, nous, l'association, un appartement à DAH, à l'office HLM de la Drôme, et que voilà, dans lequel on accueille une famille et on aide la famille à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau juridique, c'est un accueil inconditionnel, donc voilà, il y a des familles qui ont rien quand elles arrivent et donc on les aide pour le logement, mais aussi dans l'accompagnement juridique, aussi dans l'accompagnement pour la santé, dans l'accompagnement pour la scolarité, enfin voilà, dans tous les domaines de la vie, puisque les gens qui arrivent sont vraiment très très perdus. Tu veux continuer, Pierre?
Oui, peut-être l'origine, de quel pays viennent les familles que vous accueillez?
On accueille les gens qui arrivent par ici. Du coup, ça a commencé avec une famille d'Albanie. On a eu une autre famille du Kosovo. Après, une autre famille d'Albanie, c'est tombé comme ça. Après, une famille d'Arménie. Et en ce moment, c'est une famille d'Angola. Et on accompagne par ailleurs d'autres personnes qui sont déjà dans le Royan et qui ont des problèmes au niveau juridique. Donc là, on ne prend pas en charge le logement, etc. Mais on accompagne une famille comme ça du Sénégal, quelqu'un franco-marocain, etc. Et puis depuis, enfin aussi par le passé, quand il y a eu un CAO à Saint-Hilaire-du-Rosier, ça vous dit quelque chose, le centre d'accueil et d'orientation qu'il y a eu à Saint-Hilaire il y a quelques années, qui a accueilli en grande majorité des jeunes Soudanais. Et ben, on a un peu pris le relais quand le CAO a fermé, quand il y avait eu des parrainages, donc il y a eu pas mal de gens de l'association qui avaient parrainé des jeunes Soudanais. Et puis, il y en a qui n'ont pas eu tout de suite ou qui ont mis beaucoup de temps à avoir leur statut de réfugié. Et donc, R les a accueillis à ce moment-là, mais plutôt chez l'habitant. Et à nouveau, aujourd'hui, depuis quelques mois, R s'est lancé dans l'accueil de jeunes mineurs isolés. Et alors là, c'est différent, c'est-à-dire que ce n'est pas un appartement qu'on a, mais c'est vraiment chez l'habitant. Et il y a 6 familles du Royan qui accueillent chez elles à tour de rôle. Alors, il y a eu un premier jeune mineur et puis il a été reconnu isolé. Donc maintenant, il est pris en charge par l'ASE. Et là, il y a un deuxième mineur qu'on accueille.
Il y a aussi un élément important dans l'association, c'est les commissions. On fonctionne par commission. Donc il y a des commissions famille, une commission juridique, et puis il y a aussi une commission sensibilisation qui est importante parce que l'idée, c'est aussi de parler de tous ces sujets qui sont un peu manipulés ou un peu ignorés parce que c'est quand même des sujets compliqués. Et le fait de travailler avec les collégiens ou avec les écoles ou avec les médiathèques, c'est important. Le fait de travailler avec Radio Royan, bien sûr. Le fait de travailler avec le centre social qui gère un cours de français, avec les Restos du Cœur, avec la Croix-Rouge, avoir des liens avec les mairies, le député, le président de la Comcom, c'est vraiment un tissage de liens permanents sur le territoire qui nous ont beaucoup été utiles quand on a des cas concrets à présenter et des familles à faire, et en particulier les familles ukrainiennes. Donc parce que on n'a pas parlé, mais il y a eu beaucoup 3 familles ukrainiennes qui sont arrivées, qu'on accompagne au niveau administratif, qui sont logés par les mairies. Et puis, j'allais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié.
Ça te reviendra peut-être. Merci pour R. Et cette question de l'ancrage dans le tissu partenarial, cette question aussi de la sensibilisation, j'imagine que chacune de vos structures ont des choses à dire là-dessus, donc on va y revenir parce que c'est important, cette question de la sensibilisation et de faire, comme cet après-midi, en fait, faire connaître ces réalités et les faire entendre au plus grand nombre. Et d'ailleurs, cette table ronde sera sur le site de RadioRoyan.fr, sur les plateformes aussi de podcast, et donc on pourra diffuser aussi pour tous les gens qui ont préféré aller au carnaval cet après-midi. Chloé, toi, tu viens de Dieu le Fit et de l'association Passerelle.
Oui, tout à fait. Je représente l'association Passerelle. On est une asso qui est née en 2019 dans le but d'accueillir des personnes exilées. Et quelques années plus tard, on est en train d'aboutir dans le sens où on ouvre, dans quelques temps, on va ouvrir une maison d'accueil pour personnes exilées en accueil inconditionnel. Et cette maison, elle s'appelle la Maison Lucette, du nom de la dame qui y a vécu, la dernière dame qui y a vécu. Pour pouvoir en arriver là, il y a eu un long chemin. Et une des choses très importantes qui a été faite pour pouvoir aboutir, c'est qu'on a créé une coopérative immobilière qui s'appelle la COP Lucette. Et c'est cette coopérative qui nous a permis d'acheter la maison l'été dernier. Et là, maintenant, on vient 7 semaines d'entamer les travaux. La première entreprise est arrivée lundi sur une partie de la toiture. Et donc, cette coopérative immobilière, c'était l'idée de... déjà de pouvoir acheter un bien à Dieu le Fit, donc vous imaginez les prix, sachant que ce n'est pas une petite maison, c'est une très grande maison et qu'en plus on va l'agrandir. La coopérative immobilière, c'était vraiment l'objet qu'on a trouvé pour emmener avec nous énormément de gens qui ont pris des parts sociales à la coopérative. Donc c'était vraiment transformer un projet social, un projet associatif en un projet coopératif. La part sociale coûte 100 euros, on peut en prendre une ou tout plein. Ça n'est pas du don, c'est vraiment on met son argent temporairement dans une coopérative pour permettre de réaliser un projet. Certaines personnes vont vouloir récupérer leur argent, d'autres non. Quoi qu'il en soit, si ces personnes veulent récupérer leur argent, la coopérative a 5 ans pour leur rendre. Donc c'est là qu'on comprend qu'on est vraiment dans un projet patient et solidaire. Aujourd'hui, il y a 580 personnes qui ont pris départ à la COP plus 7. On a levé 480 000 euros. Il en reste encore 200 à lever, 220 000. Et on entame la dernière partie de la campagne. On souhaite avoir atteint les 700 000 avant la fin de l'année. Voilà, donc passerelle, évidemment, ce projet est notre projet phare. Il nous demande beaucoup d'énergie et il nous porte aussi beaucoup, parce qu'avoir tous ces gens qui sont derrière nous en tant que sociétaires, c'est une énorme énergie. Après, on continue aussi les autres actions de l'association, c'est-à-dire héberger une famille, donner des cours de français langue seconde, donner des infos comme les autres assos juridiques, administratives, aux gens qui en ont besoin sur le territoire. Mais on fait aussi tout un boulot d'information sur les questions migratoires avec le festival qu'on porte, qui s'appelle Les Murs ne servent à rien, et dont on fêtera les 10 ans en septembre, dans l'idée d'amener des contenus patients, calmes, au long cours, sourcés, documentés sur les questions migratoires, pour contrer la boue qui nous est servie chaque jour.
Et on peut les applaudir. Eh ben, je crois que ce premier tour d'horizon nous donne déjà plein de matière pour... en tout cas, moi, ça m'éveille plein de questions aussi sur, justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Chloé, sur la question de la sensibilisation et sur, effectivement, le nécessaire besoin encore d'informer, de lutter contre les préjugés, de tout le temps, puisque en face, il y a un rouleau compresseur informationnel et médiatique, on peut dire nauséabond. Du coup, il y a du travail à faire là-dessus, et chacune de vos associations travaille à sa manière à cet endroit. On voit que vous n'avez pas choisi les mêmes angles d'attaque, enfin, autant que ce soit la question d'un festival ou de l'accueil, d'avoir une maison ou le soutien juridique, mais qu'il y a un dénominateur dans tout ça qui est la question de l'accueil. Il y a 3 autres associations que j'aimerais nommer qui ne sont pas là autour de la table, mais qu'on a en tête et qui ont été invitées, mais qui ne sont pas là. Il y a A4, qui est l'association d'accueil en agriculture et artisanat, qui est une association qui est nationale. Il y a une grosse antenne à Grenoble. A4 Grenoble est très actif. Et on entendra un extrait à un moment de leur d'une autre table ronde où ils étaient invités l'année dernière dans les rencontres décoloniales rurales à Oust, où ils ont pu présenter des choses. Donc à un moment, on écoutera ça. Il y a aussi Voix Libre, qui a un projet assez proche de Passerelle, qui ont récupéré une maison qui s'appelle la maison d'Elisa, et non pas de Lucette cette fois. La maison d'Elisa, c'est intéressant parce que c'est aussi plus ancien dans le temps, et donc la maison tourne avec plusieurs...
C'est intéressant parce qu'ils ont aussi dû finir par l'acheter.
C'est ça.
Donc, ils sont aussi passés dans ce processus de levée de fonds, et maintenant ils sont propriétaires de la maison Elisa. C'est vraiment un projet, effectivement, c'est un peu notre projet frère ou sœur, avec l'accueil de un peu le même type de public, et on les connaît très bien, et c'est à Vercheny.
C'est à Vercheny, c'est vraiment près de Saillant. C'est l'association Voix Libre. Voix Libre Drôme, qui est à l'origine de ça. Et effectivement, pareil, on écoutera un petit extrait à un moment de leur travail, parce que bon, c'est important de les faire exister. Ils ont été invités, mais ils sont pas là. Et la dernière association, c'était le Sablier, ou plutôt la Clé des Sables, la ferme collective, qui n'est pas là aussi aujourd'hui, à Saint-Lathier. Donc de l'autre côté de l'Isère, avec une réalité de territoire aussi proche d'ici, mais avec d'autres enjeux. Et eux, ils ont embauché quelqu'un. Il me semble que c'est via A4 qu'ils ont travaillé ça. Mais peut-être d'autres personnes dans le public ont plus d'informations que moi, et peut-être vous en donnerez après. Voilà pour ces associations qui ont été invitées, mais ne sont pas là. Et peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, on aurait besoin d'avoir un socle commun au niveau juridique. Et je me tourne vers toi, Élise, parce que toi, tu es avocate et en plus, tu œuvres à la STIR. J'imagine que pour les personnes qui arrivent, mais comme nous tous et nous toutes, les questions juridiques et administratives sont un espèce de millefeuille et de méandre dans lesquels on peut se perdre et devenir un peu fou. Est-ce que tu nous donnerais quelques repères, et notamment sur cette question du travail, comment on peut faire travailler des personnes étrangères, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, voilà, est-ce que tu auras envie de nous dire sur cette question ?
Oui, Alors, je peux faire en effet un gros panorama parce qu'en effet, la complexité, pour moi, c'est vraiment ce qui caractérise le droit du travail pour les personnes étrangères. En fait, il y a des personnes qui peuvent être placées exactement dans les mêmes schémas de vie, dans les mêmes situations familiales et qui, pour autant, vont rencontrer des problématiques extrêmement différentes vis-à-vis de l'emploi sur le plan juridique. Il y a des personnes qui disposent de titres de séjour et qui peuvent travailler directement. Il y a des personnes pour lesquelles le travail est la condition même de détention de leur titre de séjour, qui vont devoir demander à leur employeur de détenir une autorisation pour pouvoir les recruter, qui vont devoir présenter un contrat de travail à chaque renouvellement de titre de séjour. Il y a des personnes qu'on accueille qui n'ont pas de papier, pas de titre de séjour, et pour qui le seul moyen d'être régularisé va pour autant être d'avoir des fiches de paye, quand bien même l'employeur n'est pas autorisé à les recruter si jamais il connaît leur situation d'irrégularité sur le territoire français. Voilà, on a tout un tas en fait de situations différentes en la matière, et je trouve que ça est très 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 complexe de résumer en quelques mots ces situations-là. On a voilà des personnes qui après ont des cartes de résident et qui pour le coup ont moins de difficultés pour l'accès strictement juridique, hein, parce qu'après c'est évidemment des personnes qui sont aussi confrontées à des discriminations, à du racisme, pour lesquelles il y a aussi d'autres problématiques qui sont pas que administratives qui vont s'ajouter. Et puis en parallèle, il y a des difficultés au-delà même du droit. Pour moi, dans le respect du droit par la préfecture même, et c'est ce qu'on voit par exemple beaucoup en Isère, avec des titres qui sont parfois jamais renouvelés, donc des ruptures de droit aussi, des titres qui arrivent à expiration, des difficultés dans le renouvellement des récépissés, donc qui vont faire que les salariés vont pas pouvoir poursuivre les contrats de travail. Et donc ça, c'est pour moi un troisième problème, quoi, au-delà de la complexité juridique, au-delà des phénomènes systémiques de racisme. Il y a aussi ce souci-là en matière de droit des étrangers qui est que, à mon sens, dans certaines préfectures, le droit des étrangers n'est même pas appliqué, en fait, et l'administration commet des illégalités vraiment manifestes. Donc, c'est voilà, assez compliqué.
Est-ce que ça vous donne envie de réagir? Et puis aussi peut-être des exemples, parce que là, en t'écoutant, Élise, moi j'ai eu des exemples qui sont plutôt liés à la préfecture de Valence et de la Drôme. Là, toi, tu parlais plus de l'Isère. Effectivement, de rupture de droit, de renouvellement qui se font pas, enfin des choses assez qu'on comprend même pas quand on va nous chercher les réponses. Alors, il y avait Pierre et puis après Hélène. Pierre pour R.
Un élément qui est important et qui n'a pas été cité, peut-être c'est le fait que tout passe maintenant par le numérique. C'est-à-dire qu'il faut passer par la plateforme qu'appelle NEF, et cette plateforme, on sait qu'elle dysfonctionne. Donc, vous êtes obligé de rentrer par la plateforme, mais cette plateforme ne fonctionne pas. Donc, c'est-à-dire que vous n'aurez jamais un rendez-vous à la préfecture, parce que tout passe par le numérique, mais il vous manque un papier, mais vous n'êtes pas au courant. La NEF n'a pas enregistré votre extrait de naissance, elle vous le redemande. Enfin, on a des espèces de systèmes comme ça qui sont tellement bien huilés qu'on se demande comment... Enfin, je ne voudrais pas être méchant, mais j'ai l'impression que ça a été quand même fabriqué. Oui. Ce n'est pas volontaire. Bon, d'accord, ce n'est pas volontaire.
Non, comment ça pourrait ne pas être volontaire?
Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien. Oui. Et ça veut dire que pour les gens, encore nous, bon, on accompagne les gens. Quand on sent, quand la préfecture sait qu'elle est accompagnée, les personnes sont mieux reçues. Ça, c'est aussi ce qu'on constate. Et quand la personne est toute seule dans la rue ou sans droit, on se demande comment mécaniquement elle peut faire pour entrer dans le dispositif. Et comme en plus le dispositif dysfonctionne, eh ben, on tourne en rond. On a mis en procès la préfecture, on a gagné le procès, mais ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et au final, la décision du tribunal n'a pas été appliquée par la préfecture.
Quand tu dis on, c'est R. R a mis en...
C'est R à l'époque.
R a mis en procès la préfecture de Valence.
Parce qu'ils ne donnaient pas la carte qu'ils étaient obligés de donner.
Ouais. Et aussi, alors il y a des choses pour compléter, c'est aussi des timbres fiscaux qui coûtent 225 euros à chaque fois. Qu'une fois qu'ils ont... Enfin, moi, j'ai accompagné une famille, donc je vois le dossier se perd, il faut repayer 225 euros. Et 225 euros, on sait ce que ça représente, déjà dans l'absolu, mais aussi pour des personnes qui n'ont aucun moyen de subsistance. Donc il y a aussi ça que je voulais souligner. Et effectivement, comment ne pas perdre espoir et la question de l'impact de tout ça sur la santé et notamment la santé mentale des personnes qui arrivent dans ce dédale de mauvaise foi et de complexité. Hélène, vous vouliez rebondir ou Dorine, ouais, pour Terreaux Locaux.
On va pouvoir donner un exemple assez précis, effectivement, et où Terreaux Locaux et Toi et Noi sont en collaboration. Nous avons effectivement une salariée qui avait une autorisation de travail qui n'a pas été renouvelée. Et donc, on a dû suspendre son contrat de travail. Donc, il y a eu une grosse bataille menée conjointement avec Toi et Noi, l'avocate et également notre accompagnatrice sociale. Pour redemander cette autorisation de travail en attendant la réponse du titre de séjour. Donc voilà, en attendant, cette personne se retrouve en incapacité de payer son logement, par exemple. Et donc c'est là que Toi et Noi intervient également en prenant en charge. Mais ça veut dire qu'on démarche aussi, par exemple, la MSA, parce que Terreaux Locaux dépend de la MSA. Donc la MSA accepte de prendre, par exemple, un mois de loyer. Voilà, c'est dès qu'il y a une suspension comme ça, c'est vraiment tout un réseau qui s'active et c'est un vrai travail de fourmi. Je ne sais pas si Hélène, si tu veux compléter.
Et c'était au mois de février. La seule date qu'elle avait, c'était en août pour le renouvellement. Alors qu'il y avait eu des renouvellements automatiques depuis un an, 18 mois quasiment. Elle avait eu 3 renouvellements avant. Donc, le rendez-vous était en août. Alors c'est vrai que à ce moment-là, on essaye de... les élus, tout bêtement, on leur dit, il faut râler. Bon, ils ne font pas des miracles, mais c'est important que nos élus sachent nos différends. Et il y a quand même un collectif qui s'appelle Bouge ta préf dans l'Isère qui tient le siège devant la préfecture de temps en temps, qui essaye, avec l'appui de la PARDAP et de l'ADA. C'est vrai que c'est une guerre, comme vous le dites. C'est une guerre alors que le droit, quelque part, n'est pas respecté.
C'est l'État qui ne respecte pas ses propres règles. On est vraiment face à ça.
Oui, c'est exactement ça.
Chloé, tu voulais rebondir ?
Oui, peut-être une petite précision, parce que c'est pas toujours... On a souvent l'impression, quand on parle d'associations d'accueil de personnes exilées, qu'on n'accueille que des primo-arrivants, des personnes qui viennent d'arriver. C'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens, ils ont tout un parcours en Europe, dans différents pays, des papiers italiens, mais il y en a plus... plein d'histoires très très différentes les unes des autres, et cette histoire des dysfonctionnements des préfectures, elles ont aussi un impact sur des gens qui sont en France depuis des années. Nous, on travaillait avec un monsieur qui travaillait à la CIMAD de Marseille, qui me disait encore la semaine dernière, Chloé, j'ai vu en permanence là un monsieur, ça fait 3 fois qu'il a un titre de 10 ans, là il a pas pu obtenir son rendez-vous à la nef, il est en train de perdre son boulot et son appart. C'est-à-dire que je sais pas si vous imaginez ce qu'on fait à des gens pour un putain de dysfonctionnement d'un site qui marche pas, quoi. On remet en cause toute une vie d'une personne. C'est complètement hallucinant, quoi.
C'est un peu délirant, un peu fou. Et il y a aussi, donc, moi j'attrape un peu les leviers au fur et à mesure de ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on a comme levier ? J'entends Bouge ta préf en Isère. J'entends solliciter les élus. Et voire même mettre la préf en procès. Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette folie ?
Le défenseur des droits, mais bon, ça fait partie du panel. Après, on est quand même face aussi, je pense, les préfectures, elles font partie d'un contexte, d'une certaine façon, d'un contexte politique, d'un contexte national. Elles se sentent, j'imagine, aussi soutenues par une population qui est de plus en plus critique face à l'arrivée des personnes exilées. Donc, non, les leviers, ils sont quand même pas... notre amie avocate pourra répondre, mais ils sont quand même pas foufou, quoi.
Élise, toi, dans ton quotidien à la STIR et dans ce que tu arrives à faire, comment tu t'y prends, en fait, concrètement ? Qu'est-ce que tu vas actionner comme levier pour t'en sortir dans ce tableau un peu noir qu'on est en train de décrire ?
Pas mieux que les autres. Non, pareil, on a encore un petit rempart du droit, mais là, c'est vrai qu'on est arrivé à un stade de désespoir à certains moments où on gagnait des recours, mais je pense que vous en avez tous fait d'expérience, qu'on n'arrivait pas à exécuter. Et quand bien même on ressaisissait la juridiction en disant « mettez-nous des astreintes, parce que là, la préfecture n'exécute pas votre décision de justice ». Et ça, ça a pu être des situations que j'ai vues plein de fois là au cours de ces derniers mois. Donc vraiment, la situation est grave ici, mais en effet, le contexte politique est tel que c'est sûr que les préfectures de l'Isère, ben c'est les ordres sont donnés par le ministère de l'Intérieur, quoi. Donc faut pas non plus se faire d'idées. Tout ça est tout à fait normal.
Pierre, tu voulais compléter ?
On a un exemple très concret qui est arrivé cette semaine d'une entreprise qui avait embauché un gars, un Algérien, qui l'avait formé à des techniques très pointues au niveau informatique. Et le récépissé étant arrivé à expiration, ils ont attendu, puis il est arrivé à expiration, ils ne pouvaient plus garder la personne. Et la préfecture a été condamnée par le tribunal administratif à lui donner son récépissé. Et il manquait toujours un papier. Et donc le DRH de l'entreprise s'est déplacé en préfecture, dans la Drôme, avec le salarié, pour exiger, en tant qu'employeur, d'avoir le papier. Et en sortant le tribunal administratif. Donc on voit aussi que mettre les entreprises dans la boucle, ça peut être intéressant. Et quand elles interviennent, ça fait un peu tâche qu'au niveau du discours préfectoral, parce que là, on a un salarié, une entreprise, un salarié compétent, une entreprise de pointe, et un besoin, il n'y a rien, il n'y a aucun élément possible pour dire non à cette personne, sauf à considérer que les Algériens n'ont rien à faire en France.
Et du coup, à Terreaux Locaux, comment vous contournez ça et comment vous arrivez à... Je te vois faire les gros yeux. Parce que vous embauchez des gens. Donc comment ça se passe concrètement quand des personnes arrivent et... Donc ce n'est pas forcément des primo-arrivants, hein, c'était important de le rappeler, Chloé. Donc des gens qui sont peut-être là depuis plus longtemps pour accéder à des... La plupart du temps, c'est des CDD. Comment ça se passe pour vous concrètement ?
Alors, Terreaux Locaux, du coup, on accueille que des personnes qui ont que des personnes qui ont l'autorisation de travail dans tous les cas.
Qui ont déjà passé plusieurs étapes dans ce dédale.
Par contre, l'enjeu, ça va être justement le renouvellement de ces et la continuité de ces autorisations de travail et le renouvellement des titres de séjour. Et là, souvent, on a des cassures dans le parcours. La force aussi de Terreaux Locaux, c'est qu'on fait partie de plusieurs réseaux. Notamment donc le réseau Jardin de Cocagne, mais pour tout ce qui est lutte un petit peu, c'est le réseau Emmaüs, qui par exemple cette semaine s'est réuni à Paris pour Emmaüs en lutte, et donc voir collectivement sur tout le territoire comment on pouvait avoir une portée commune en tout cas, et des actions communes, qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme action commune pour avoir une portée un petit peu plus importante que chacun sur son propre territoire. Donc je ne dis pas que ça va changer les choses, mais en tout cas on va sur la piste militante, quoi.
Oui, donc c'est vraiment la force du tissu associatif et de bien se connaître et de travailler ensemble qui va soutenir et aider. Mais ça demande beaucoup d'énergie aussi, des structures, ouais. Et des bénévoles.
Oui, tout à fait. Si je peux juste rajouter, c'est l'importance aussi du soutien des élus locaux. Terreaux Locaux a vraiment pu compter sur le conseil municipal. Et du fait de la participation à d'autres réseaux, il y a eu plusieurs représentants à Paris, hein, de l'État, qui sont venus découvrir Terreaux Locaux, et ça a fait un petit peu bouger les choses. Il y a aussi Terreaux Locaux qui participe à un événement européen. Enfin voilà, la voix a été entendue, etc. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de multiplier les petites actions comme ça, de plaidoyer finalement.
Et est-ce que ça vous arrive de faire des promesses d'embauche ? Parce que c'est quand même une des pièces dans les dossiers qui peut compter au niveau de la préfecture. Est-ce que vous faites à Terreaux Locaux des promesses d'embauche ?
Non, ça, on n'a jamais eu le cas.
Et alors, comment vous vous en sortez quand il y a cette fameuse pièce de promesses d'embauche d'une structure avec qui vous travaillez sur vos territoires différents ? Je ne sais pas, du côté de Dieulfi ou ici dans le Royan ou sur Romans, avec qui vous pouvez travailler pour avoir ces... fameuse promesse d'embauche. Peut-être on peut rappeler aussi ce que c'est.
Mais ça, là aussi, hein, il faut bien comprendre que c'est vraiment l'aléatoire qui décide. Hein, donc, nous, on a eu la chance de pouvoir faire une, effectivement, qu'une. C'est, je ne vais pas dire nous, parce que c'est vraiment la personne exilée qui avait un plan stratégique très clair et on l'a accompagné là-dedans. Il avait effectivement trouvé un employeur qui cherchait une personne et qui a dû, d'une part, prouver qu'elle n'avait pas trouvé une personne française pour ce poste, puisque ça, c'est la loi. Préférence nationale et tout s'est bien enchaîné et effectivement ce monsieur a pu obtenir un titre du fait d'avoir eu un patron qui lui faisait une promesse d'embauche, sachant que là on n'est pas dans le cas où on doit prouver qu'on travaille déjà, on est dans le cas où on attend sur son canapé d'avoir la réponse de la préfecture parce qu'on n'a pas le droit de travailler tant qu'on n'a pas eu le titre qui donne droit au travail. Pour ce monsieur tout s'est bien enchaîné.
Est-ce que tu peux revenir là-dessus sur cette question, parce que j'ai eu des réactions sur cette question de préférence nationale, peut-être. C'est pas clair pour tout le monde.
En fait, un employeur qui, par exemple, cherche, je sais pas, en plus, il y a la question des métiers en tension après qui s'ajoute, mais je vais pas aller sur ça. Mais un monsieur qui cherche un pâtissier et qui rencontre un jeune malien qui est sans papier en France et qui se trouve avoir des compétences en pâtisserie, s'il veut l'embaucher, il doit prouver qu'il a depuis 3 mois une annonce de pâtissier sur France Travail et que personne ne s'est présenté. Il n'a pas pu recruter une personne française cherchant du travail en France pour pouvoir faire une demande d'autorisation de travail pour un monsieur de nature étrangère.
Ça, c'est une loi qui date de quand ?
Je ne sais pas.
Est-ce que toi, tu sais, Élise ?
Ça date de pas mal de temps.
Mon expérience, ça a toujours existé. Donc... Je sais pas, j'ai commencé en 2016.
Ok.
Non, je ne saurais pas dire.
Le fait que quand on embauche quelqu'un d'étranger, il faut payer. Et ça coûte cher. Donc, certains employeurs disent, moi, je veux bien le prendre parce que je trouve personne d'autre. Bon, OK. Mais il faut payer, et payer cher. Et un droit qui est utilisé très beaucoup en agriculture pour faire venir les travailleurs espagnols, par exemple, à l'époque, pour ramasser les fraises, voilà, ça rentre dans un détachement. Donc, les gens, ils viennent, mais ils sont censés repartir. Et là, ils ont adapté le système pour les réfugiés... les exilés qui n'ont pas vocation à repartir, en principe. Mais justement, c'est boiteux, quoi. Ça ne fonctionne pas très bien.
Oui, Elise.
Je peux peut-être apporter une toute petite nuance. Cette histoire d'autorisation de travail et de devoir prouver qu'on n'a pas pu recruter une personne française, ça s'applique seulement aux personnes qui détiennent des titres liés au travail. Pour toutes les personnes qui ont des titres vie privée familiale, qui sont parents d'enfants français, conjoints de ressortissants heureux, etc., ça ne s'applique pas.
Et à toi, Enoa, est-ce que Hélène, vous pouvez nous donner quelques détails aussi de comment ça se passe pour vous, l'embauche ?
C'est vrai que tu l'évoquais tout à l'heure, on suit actuellement une famille qui a une OQTF, que notre cher Darmanin il a rajouté 1 ou 2 ans de plus pour représenter une demande d'asile, il y a 2 ou 3 ans. Donc tu le disais tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué parce que dans la demande d'asile, il doit fournir la preuve qu'il a travaillé, mais il n'a pas le droit de travailler. Donc, c'est complètement c'est effarant. Alors, on a trouvé un biais. Alors ça, c'est un peu sur les conseils de l'APARDAP et de l'ADA à Grenoble, qui suivent au niveau administratif. On a quand même trouvé une petite solution pour ces personnes, et ça fonctionne, c'est de les embaucher avec des CESU. Un employeur privé risque, je crois que c'est 20 000 euros d'amende s'il embauche quelqu'un en OQTF. Par contre, quand on est un particulier, alors il y a à Lozier, par exemple, des personnes qui ont besoin de faire tailler des haies, qui ont besoin de, etc., etc., faire un peu de ménage, faire un peu... On est arrivé, et ça me paraît quand même... il n'y aura pas de poursuite là-dessus. Je viens de les aider à faire leur déclaration d'impôt, parce qu'ils reçoivent leur déclaration d'impôt. Les CESU sont bien, j'ai bien vérifié, c'est les bonnes sommes. Donc, si l'administration française leur envoie une déclaration d'impôt avec des CESU, on espère quand même que les particuliers qui ont la bonté, c'est pas ça, mais qui ont conscience qu'il vaut mieux les embaucher eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de manger, tout bêtement... On pousse pas mal à c'est du bidouillage, hein, mais ça aide.
Il faut peut-être juste quand même préciser que c'est une tolérance. Hein. C'est pas légal. Mais effectivement, il y a une tolérance depuis des années sur ça. Mais quand on en discute avec un avocat, il nous dit quand même, normalement, la personne privée est censée s'assurer que la personne qu'elle embauche en CESU a bien un titre de travail. Bon, voilà. Mais clairement, les gens du CESU le savent très bien que plein de personnes font ça parce que c'est aussi une paix sociale. Hein. Ces personnes, il faut bien qu'elles fassent leurs courses, comme tu le dis.
Du coup, c'est de la bidouille. Le mot a été lâché. C'est de la bidouille. C'est des endroits, des zones un peu grises de tolérance sur quelque chose qui pallie au dysfonctionnement plus général du droit et du respect du droit. Mais tout le monde est au courant et ça se passe.
Il y a aussi le travail au noir, on n'en parle pas. Mais je pense que la restauration, le bâtiment travaux publics, par exemple, entre autres, serait bien en peine si on faisait vraiment une action contre le travail au noir. Ça fonctionne. Quand vous allez dans un restaurant à Grenoble, vous regardez un petit coup d'œil dans la cuisine, celui qui fait la vaisselle, je ne suis pas sûr qu'il ait les papiers. Et heureusement que ce système existe, entre guillemets, pour donner une espèce de bouée de sauvetage à des gens qui n'ont pas d'autre solution. Mais en même temps, c'est la porte ouverte à tous les abus qu'on connaît. Hein, refus des droits, refus de payer les heures supplémentaires et autres. Quoi. C'est un espèce de système qui permet un salariat sous-doté en droit, quoi.
Oui, et on sait, c'est ça, pas de respect des droits, des arrêts de travail, du chômage, toutes les cotisations.
Pas de fiche de paye,
et du coup, pour le logement.
On en parle en ce moment.
Marie, tu veux compléter
Non, parce qu'on parlait en aparté des livreurs à vélo, et en ce moment, il y a bien tout un...
Sur Deliveroo,
voilà,
Uber...
Sur Deliveroo et Uber, quoi. Ouais. Mmh.
Donc, le tableau est assez noir, mais il y a des leviers. Oui, vas-y, Marie.
Juste pour continuer, parce que tout à l'heure, on a parlé des promesses d'embauche. Et je pense que, un peu, enfin, en tout cas, les associations qui sont en milieu rural, et on est tous dans des environnements où on a beaucoup de relations, et en fait, ça se passe aussi vraiment beaucoup comme ça. Et on peut avoir une promesse d'embauche parce qu'on connaît un tel, et parce que... Et voilà, et je pense que, alors, en ville, il y a d'autres manières de faire, sûrement, mais nous, les réseaux et l'implantation, et c'est vraiment très, très important.
J'ai envie de donner la parole aussi aux personnes concernées, parce que là, il y a que des structures qui accueillent et accompagnent. A4, eux, ils ont un positionnement qui est différent. Donc, A4, c'est l'association d'accueil en agriculture et en artisanat. On va les laisser se présenter. C'est donc un extrait qui vient d'une captation d'une table ronde qui a eu lieu donc aux rencontres décoloniales rurales à Oust-sur-Sille l'année dernière, à peu près à la même époque. C'est les gens de A4 Grenoble qui se présentent. Et je veux aussi rappeler qu'il y a un film qui présente A4 qui s'appelle D'égal à égal et qui est disponible sur Vimeo si ça vous intéresse. Et voilà, on écoute cet extrait et on pourra rebondir dessus. Et puis on ouvrira aussi sur la question des maisons, puisqu'il y a la maison de Lucette et la maison d'Elisa, et sur la question du logement qui est une question centrale aussi au milieu de tout ça.
Et vers 2021, fin 2021, 2022, l'association a été créée. Maintenant, A4, association d'accueil en agriculture et en artisanat. Et en quelque sorte, pour la présentation de l'association, c'est ce que je peux dire. Et il y a des amis qui sont là, qui peuvent dire aussi un peu quoi. Merci.
Précisément, l'association A4 s'est créée à Paris. Saint-Denis. On a plusieurs antennes de A4. Il y a un à Grenoble, il y a un à Lannion, il y a un à Centrafrique, et bientôt il y a un qui va créer à Lyon.
En Bretagne.
Il y a un à Rennes, voilà. Donc, à la base de l'association, vraiment, c'était voilà, la personne concernée prend les choses à la main. Que, pas tout le temps suivre les autres et pas les autres qui disent tout le temps faut faire ça et voilà, à la base de l'association c'était ça et puis lutter trouver des choses à soi-même et aller vers là où on peut trouver des choses à faire à nous-mêmes.
Et A4 a été créé par des personnes exilées, des personnes racisées. Et au début, le slogan, c'était « Nous traversons la mer pour retrouver la terre ». Et c'est des personnes qui ont traversé la mer pour retrouver la terre de l'autre côté. Au début, ça n'a pas été facile. Ils étaient en Île-de-France, une grande agglomération, parce que souvent la majeure partie des exilés qui viennent, et beaucoup veulent rester dans les grandes villes. Et donc, ils ont eu des problèmes pour la régularisation. Et du coup, il y a eu des idées. Certains ont travaillé avec SOS Méditerranée, avec beaucoup d'associations. Ils ont vu que ce n'était pas facile d'avoir les papiers. Et pour le travail, il fallait travailler dignement. Donc, ils se sont dit, peut-être il fallait passer par la terre parce que c'est des gens. Et au pays, ils travaillent dans la terre. C'est des gens qui connaissent la terre. Même si ici, la façon de faire l'agriculture, c'est différent, c'est développé, voilà. Donc, d'où l'idée est venue de créer l'A4. A4, Association d'accueil en agriculture et artisanat. Et l'objectif de l'association en question, c'est de mettre en lien le milieu rural et le milieu urbain et en même temps aider les gens qui ont des papiers, que ce soit des gens qui ont le papier ou pas de papier, à poursuivre les démarches dans ces deux milieux. Et donc, A4 a des antennes, comme mes amis l'ont dit. Nous avons des groupes locaux. Il y a un groupe local en Île-de-France, il y a un groupe local en Agnon, il y a un groupe local à Grenoble. On va bientôt créer un groupe local aussi à Lyon.
A4, on a un slogan d'égal à égal. Voilà, tout le monde est la bienvenue en A4, personne blanche, en tout cas toutes les personnes, en tant qu'humain, tout le monde est la bienvenue. On a pas mal de liens, de fermes, et pour trouver des formations, des stages et voir même le travail. Et on est en train, même on est en train encore, parce que c'est des fois on rencontre des difficultés à ce niveau, et on est en train de chercher encore d'autres relations, d'autres liens, et parce qu'on a des gens qui ont envie de s'installer en agriculture et voire même travailler, parce que avec des personnes qui sont déboutées de l'asile, et ils n'auront pas d'autres moyens que par la régularisation, par le travail. Et on met des trucs en place pour créer ce réseau afin que ces personnes soient accueillies dans les conditions dignes et pour être dans les meilleures conditions, quoi. Et en fait, à la base, si nous accueillons des personnes, on essaie de les faire des petites formations d'accueil, c'est-à-dire comment s'intégrer en France, comment les choses se passent et administrativement et le travail, comment trouver le travail. C'est-à-dire les personnes à la base, quand on les accueille, on leur demande d'abord leurs compétences, et on a des sous-groupes qui sont créés pour ça. On leur demande leurs compétences à la base et ce qu'ils aiment faire en France, et il y a ça aussi. En plus, quand une personne est partie pour travailler dans un lieu, et la personne est suivie pour qu'il soit dans les meilleures conditions d'accueil. Voilà.
Et justement sur ça, parce qu'il y a quand même beaucoup ce truc qui revient de... Quand des personnes ont des compétences acquises au pays, à l'arrivée en France, parfois c'est des compétences qui sont totalement invisibilisées ou niées, comme si elles n'avaient pas existé avant l'arrivée en France. Comment vous faites, vous, dans l'association, pour réussir à valoriser et qu'elles soient respectées aussi, ces compétences?
Pour réussir à valoriser ces compétences, c'est-à-dire, il y en a, on passe par le stage, d'abord, pour que la personne ait un aperçu sur les compétences en France. Et après, voilà, parce qu'on a pas mal d'amis qui ont eu le travail. Ils ont passé d'abord par le stage. Et après, ils ont été à la hauteur et ils ont été pris. Et après, on a fait le contrat. Après, on leur donne le fiche de paye. après maintenant l'accumulation des services de paix, il sera régularisé. Et c'est comme ça, quoi.
Et pour ajouter quelque chose par rapport à ça, et du coup, et nous, quand nous accueillons des nouveaux membres, et on a un groupe d'accueil, et souvent les gens qui viennent, on demande leurs compétences, on demande ce qu'ils ont déjà fait au pays, et on a une liste sur laquelle on les inscrit. Et du coup, on a aussi des propositions de formation, et donc souvent, c'est des outils qui nous permettent de s'intégrer, de connaître la France et de mieux s'adapter et pour mieux entamer les procédures par rapport au travail. Et le travail qu'on fait de l'autre côté, souvent, c'est des travaux manuels. Mais quand on vient ici, voilà, c'est des travaux qui sont industriels et tout, avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de machines.
Voilà pour cet extrait des membres de A4 Grenoble. Si vous voulez écouter cette table ronde qui est un peu longue mais très intéressante sur le site de Radio Saint-Ferréol sur les rencontres décoloniales rurales pour écouter la suite, je vous invite à aller voir sur ce site. Est-ce que vous avez des réactions et notamment sur la question du milieu rural qui est quand même notre réalité ici dans le Royan mais qui est un peu aussi la même chose du côté de Diolfi, de Vinay, enfin de Terreau-Locaux aussi, sur la question agricole. Est-ce qu'il y a des choses qui sont spécifiques dans nos milieux ruraux qui peuvent permettre peut-être des leviers qu'il n'y a pas en ville?
Oui. Je crois qu'il y a un élément qui est important dans ce qui s'est dit, c'est les compétences. On pense que les gens n'ont pas de compétences, qu'ils viennent pour profiter du système. Mais en fait, les gens qu'on a, nous, c'est que dans les familles qu'on a accueillies, il y avait des gens archi compétents, super compétents, mais qui avaient un mal fou à faire reconnaître leurs compétences, soit que le diplôme n'est pas accepté en France, soit parce que on ne prend pas le temps, au niveau de France Travail, de regarder si elles ont des compétences concrètes. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est important, parce qu'il faut aussi déconstruire toute cette image du migrant qui vient d'un arrière-pays agricole où il crève de faim et qui arrive en France et qui est prêt à travailler dans n'importe quoi. Bon. Ouais. Après, au niveau agricole, ici, on est dans un pays agricole, mais c'est quand même très spécialisé. Il y a peu de demandes de main-d'œuvre, contrairement peut-être à la vallée du Rhône, où il y a des besoins assez récurrents de main-d'œuvre pour recueillir les fruits, par exemple, mais où le système est organisé depuis très longtemps. Donc, il faut arriver plutôt à rentrer dans le système qu'à créer. Mais dans un pays comme ici, où il y a Mouavinay, les noix, mais il n'y a pas besoin tellement, sauf la semaine où on récolte les noix. Mais maintenant, avec les machines à récolter les noix, on a de moins en moins besoin de personnes. Donc, c'est tous des petits boulots comme ça qui disparaissent, quoi.
Merci, Pierre. Chloé, je te voyais réagir.
Non, c'est juste que nous, à Diolfi, en fait, sur la ville de Diolfi, c'est marrant parce qu'on a toujours une image assez agricole parce qu'on est en milieu de campagne rurale. Il y a très, très peu d'exploitations agricoles sur Diolfi. Je crois qu'il y en a 3 ou 2. C'est minuscule du point de vue agricole. Après, sur les territoires autour, bien sûr. Nous, avec les personnes qu'on a accompagnées vers le travail, c'est pas vers l'agricole qu'elles sont allées. Moi, je vois quand même, et j'aurais pas parlé comme ça il y a 5 ans ou il y a 6 ans, je vois quand même vraiment l'enjeu de la langue avant même la compétence. Et c'est, voilà, on se rend compte quand même que c'est quand même galère quand on parle pas la langue du pays où on vit, surtout pour trouver du travail. Et même quand on a une pratique du français, mais qui est un peu plus aléatoire que quelqu'un qui est francophone, pour un entretien d'embauche ou même pour une rencontre avec un patron, de suite les gens ils s'inquiètent, ils se disent ah mais est-ce qu'il va comprendre les consignes, et puis c'est aussi que quels sont les boulots aujourd'hui où il faut pas même savoir lire le mode d'emploi d'une machine, les conditions de sécurité dans une usine, enfin c'est quand même très très présent. Donc après c'est là où nous on essaye effectivement d'amener les cours, de faire progresser les gens aussi par la sociabilisation, hein, pas seulement par les cours. Et c'est aussi là où nous, en tant qu'asso, on est une interface, c'est-à-dire on met de l'huile dans les rouages aussi, dans la relation avec le patron, avec l'entreprise. Ça, c'est, ils peuvent nous appeler, y a un souci, n'hésitez pas, appelez-nous et on se fait une réunion à 3. Enfin, voilà. Ça, je pense que c'est tout ce qu'on fait, en fait. Cette espèce d'ancrage territorial et relationnel, il est absolument essentiel dans une mise en confiance sur embaucher une personne venue d'ailleurs, quoi.
secteurs où il n'y a pas besoin.
Attends, juste Pierre, il y a Dorine qui voulait prendre la parole, pardon.
Non, c'était vraiment pour abonder les propos. À Terre aux Locaux, les activités de maraîchage et de boulangerie sont vraiment un support, en fait. La plupart des salariés n'ont pas forcément d'appétence à la base ou de compétences dans le milieu agricole, ni biologique, etc. Mais par contre, ce sont des activités qui laissent le temps à l'apprentissage également. C'est un travail en équipe. Le fait de participer au marché également, enfin il y a beaucoup de contacts en fait humains. Les activités aussi de production, c'est assez valorisant aussi parce que finalement on travaille toute la journée, à la fin de la journée on a notre pain qui est produit et qu'on vend, etc. Donc ça a un impact aussi sur la confiance en soi qui est pas négligeable également.
Hélène, tu voulais compléter?
Je voulais juste rajouter quelque chose. Ceux qui verront le film après le comprendront. Les porteuses de projets, quand elles sont arrivées, elles voulaient absolument se poser en milieu rural, en se disant que toutes les offres d'insertion pour les réfugiés étaient majoritairement en ville et que effectivement, on a quand même une majorité, j'allais dire, de personnes qui arrivent d'Afrique aussi. Ils avaient pu tester des petites compétences, même à un niveau familial, et que ça serait ça serait plus facile d'entrer dans un premier travail. C'était un choix de s'installer en milieu rural, vraiment.
Et j'avais envie qu'on aille aussi vers la question du logement, puisque donc, par exemple, la passerelle, pour vous, c'est important que... Enfin, c'est pour ça que vous avez monté aussi cette maison. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment vous avez travaillé cette question-là, qui est à la fois les cours de français, la question du travail et la question surtout du logement?
C'est sûr que quand on regarde, même quand on a une vision un peu lointaine de la question migratoire en France et en Europe, globalement, on pense à un campement de personnes migrantes, quoi. Enfin, clairement, c'est quand même, notamment en France, notre énorme problème. C'est le non-accueil qui fait que des gens vivent dans des tentes et sur des trottoirs, du fait du manque de place dans les centres d'accueil, notamment pour demandeurs d'asile. Après, ce projet, il est né notamment de l'expérience de bénévolat au refuge de Briançon, qui est quand même un endroit à la frontière entre l'Italie et la France où on accueille des personnes qui viennent de traverser les Alpes, qui arrivent d'Italie et avant ça qui arrivent de la Méditerranée, et on les voit et on fait un entretien avec elles dans le bureau d'accueil et ils partent à Limoges, à Rennes, à Paris. Ils ont des destinations, ils ont des contacts, ils vont les rejoindre et nous intérieurement on se dit ok, d'accord, dans 3 semaines il sera dans une ville parisienne, dans une ville française, très certainement non hébergée. Surtout quand ce sont des hommes seuls, malheureusement, maintenant, c'est même les familles qui ne sont pas hébergées, même les femmes enceintes jusqu'à 7 mois. Donc voilà. Et donc c'est quand même... Même d'un point de vue hors question migratoire, avoir un toit sur la tête, c'est quand même un peu le début de tout. Les gens qui font de l'insertion le savent bien, le toit d'abord, pour pouvoir ensuite commencer à poser des démarches, peut-être trouver un travail, etc. Donc nous, effectivement, c'est un peu la porte d'entrée dans cet ensemble de choses de l'accompagnement social. Donc l'enjeu, ça a été dès le départ, l'idée était d'ouvrir une maison, mais après, c'est le comment, quoi. Au départ, l'idée n'était pas forcément de devenir propriétaire. L'idée de la coopérative immobilière, elle est venue parce qu'on a trouvé une maison, on a vu une annonce d'une maison qu'on a visitée très rapidement et dont on s'est dit il faut absolument qu'on chope cette maison parce qu'elle correspondait tout à fait au projet social qu'on avait écrit pendant pratiquement 3 ans.
Oui, donc c'est aussi un coup de cœur sur cet endroit.
Sur cet endroit, qui vous a donné sur aussi, cet endroit qui correspondait au niveau de ce qu'on pouvait y faire, de là où elle était placée, de plein de choses, et qu'il y avait un propriétaire qui était en plus plutôt ouvert à l'idée du projet, donc qui était aussi patient de nous laisser trouver l'argent pour l'acheter. C'est pas toujours le cas. Mais avant ça, il y a eu plein de pistes. Il y a eu travailler avec un opérateur social. Il y a eu des baux amphithéotiques avec des propriétaires privés, mais ça pouvait pas fonctionner parce qu'il y avait tellement de travaux que le bail amphithéotique court. C'est pas intéressant. Enfin, il y a eu plein d'allers-retours pour finalement en arriver à l'achat d'une maison en collectif. Et c'est sûr que c'est le... Ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'est pas seulement... Je voudrais faire remonter, du coup, c'est l'occasion, une phrase des personnes exilées que moi, j'ai souvent entendue, de personnes exilées qui vous disent « Mais moi, je suis pas venue en France pour manger et dormir. C'est la sensation que les gens ont quand ils sont, notamment les mineurs isolés en attente, même quand ils sont hébergés le temps d'être scolarisés, etc. Ils sont mis dans un endroit, des fois un hôtel, on leur distribue des plateaux repas et ils ont un toit sur la tête. Mais c'est tout, c'est ce qu'on appelle les besoins vitaux. Nous, on voulait absolument sortir de ça et créer un lieu de vie au-delà de... Donc véritablement, ce terme de maison et pas seulement héberger les personnes. D'où l'idée qu'il y aura les bureaux de l'association qui seront sur place, qu'il y aura des activités, qu'il y aura un lieu socioculturel où on pourra faire des concerts, faire des fêtes, faire des soirées, qu'il y aura des ateliers en location pour des personnes artistes ou artisanes, qu'il y aura un appartement qui sera loué à une personne de Dieulefit, parce qu'il n'y a pas que pour les personnes exilées qu'il est difficile de s'héberger à Dieulefit. C'est un endroit très attractif où tout est très cher. Donc même pour louer un appart, c'est compliqué. Donc il y avait cette idée aussi de participer à la question de l'habitat dans Dieulefit, étant donné qu'on est devenu propriétaire d'une grande maison. Donc c'était pour prendre part aussi à cette question-là. Donc bien sûr que oui, ce truc d'ouvrir la porte, de créer des chambres et que les personnes elles puissent se poser. Après, c'est... faut pas avoir non plus une vision trop fantasmée et idyllique de ça. Ça veut pas dire qu'il y aura pas plein de problèmes. On a signé là pour quelques années de problèmes et les gens ont pas forcément envie de vivre à Dieulefit. C'est aussi pour ça qu'on crée un temps d'essai, une période d'essai qui nous sert à nous mais qui va aussi servir aux personnes, qu'elles puissent se faire un peu une idée de ça veut dire quoi vivre à Dieulefit. On met combien de temps pour aller à Montélimar, je mets combien de temps pour rejoindre la gare si j'ai un traitement à Grenoble, si je dois aller pour faire mes papiers. Un endroit de vie, il faut qu'il soit connecté avec tout ce qui s'y passe, quoi. C'est pas seulement mettre un lit et une chambre. Ça, c'est l'urgence. Et nous, on veut justement sortir de ça.
Dorine, tu voulais compléter ?
Oui. L'accès au logement faisait vraiment partie de l'objectif, la mission de Terreaux Locaux. Et à sa création, les porteuses de projet voulaient vraiment avoir un habitat partagé également. Dans l'association. Il se trouve que bon, les réalités du territoire faisaient que c'était pas forcément une priorité. Il y avait des concessions à faire aussi. Et du coup, il y a surtout une donnée qui était à prendre en compte, c'est que la majorité des salariés en insertion viennent surtout de Grenoble et sont orientés à Grenoble vers Terreaux Locaux. Et donc, ils ont déjà leur cercle autour et ils souhaitent poursuivre leur installation sur Grenoble et la rendre pérenne. Donc, on a fait le choix aussi, quand eux étaient demandeurs, en tout cas, d'avoir un réseau de bénévoles qui pouvaient accueillir les salariés en insertion qu'ils le souhaitaient sur Notre-Dame-de-Lauzier. Actuellement, il n'y en a plus. Mais on fait du coup de l'intermédiation locative à Saint-Marcellin pour celui qui a sa vie à Saint-Marcellin et à Grenoble pour les autres, quoi. Donc là, c'est une question sur...
Tu veux juste préciser l'intermédiation locative?
Oui, pardon. L'intermédiation locative, c'est le principe de l'association loue en son nom un appartement, un logement à un propriétaire privé et le sous-loue à un salarié. Voilà. Je te laisse compléter, du coup, Hélène.
Donc, il y a eu un projet entre la mairie, l'EHPAD, qui n'est pas très loin, de Terreaux Locaux et Terreaux Locaux, avec Pluralis, donc de rénovation de ce qui s'appelait le foyer rural, une vieille maison pisée. Ça a mis un certain temps, mais ça y est. Donc, avec deux appartements en location HLM de droit commun, deux appartements réservés à Terreaux Locaux et deux appartements pour l'EHPAD, sachant que c'est pour des personnes qui ne sont pas tout à fait prêtes à rentrer en EHPAD, mais qui peuvent quand même bénéficier des services de l'EHPAD qui est juste à côté. Et il y aura une... c'est pas vraiment un habitat partagé, ce sont des logements individuels, mais avec une salle commune, avec un partage. Donc ça a mis beaucoup de temps, mais on y est quand même arrivé.
C'est inspirant, tout ça. À quand une maison comme ça dans le Royan, finalement, on a envie de se dire. Je vous propose qu'on découvre l'association Voix Libre et la maison d'Elisa à Vercheny. Voix Libre Drôme, ça a été créé en décembre 2017 par une poignée d'habitants et d'habitantes de la vallée de la Drôme, et notamment domiciliés à Saillant, avec ce besoin d'accueil sur le territoire des personnes migrantes, éprouvées par le parcours, enfin des choses dont on a parlé. Je vous propose quelques minutes pour rentrer dans ce projet-là et nous laisser rêver à qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place dans le Royan.
Bon, on est à Vercheny, à 5 km de Saillon. Bon, il y a une association qui s'est organisée ici, qui ont trouvé une maison. juste pour la mettre en bon état pour accueillir les migrants.
C'est une fille qui... on va essayer, c'est une fille
qui... On n'a pas de sauvegarde
dans celui-là. Comme ça, on va faire ça dans la poubelle.
Je me nomme Ibrahima Sori Diallo. Je viens de Guinée-Conakry. Ma vie était en danger, je ne pouvais pas y rester. Donc j'ai fait beaucoup de traversées. J'ai eu beaucoup de problèmes sur la route. Ma vie était toujours en danger. Je sais que si je rentre chez moi, il y a quelque chose qui m'attend. Donc soit la mort ou bien la prison à vie. On a monté la semaine passée les fenêtres, les portes. On est sur l'isolation, donc ça tend vers la finition parce que ça nous reste la dernière course de l'isolation. Je trouve que ça, on le fait pour nous. Parce que si, même si moi, je ne veux pas rentrer dedans, mais quand même, il y aura des gens qui viendront, qui sont dans les mêmes situations que j'ai eues, qui vont habiter la maison juste pour un temps. Donc c'est pour cela que c'est ça qui m'a motivé de venir, moi aussi, volontairement, donner ma contribution.
La chance qu'on a eue, le groupe qu'on était, c'est qu'on a rencontré deux personnes, Jean-Pierre et Alice, qui avaient un peu cette idée aussi, en tout cas d'accueillir, et qui étaient en train d'acheter cette belle maison là qu'on voit, et qui voulaient la retaper pour accueillir des gens. Et du coup, on s'est rencontrés, et puis notre mouvement a démarré là-dessus, avec une association qui s'est greffée par-dessus, qui s'appelle Voix Libre Drôme, et dont l'objet est à la fois d'accueillir des gens, des migrants, et aussi en parallèle d'informer, de sensibiliser sur cette question-là, et que le plus grand nombre de gens s'y intéressent, et comprennent pourquoi des gens arrivent ici, comprennent comment l'État ne les prend pas en charge, et pourquoi du coup il y a des dispositifs non institutionnels qui sont obligés de se mettre en place pour pas que les gens crèvent dehors et puissent avoir simplement des rapports humains avec d'autres. Et là maintenant on est au mois de mars et donc on est dans la phase où on termine l'extérieur de manière bénévole pour le coup, avec des copains qui viennent filer la main, pas mal de gens qui ont des compétences là-dedans, donc c'est super chouette. Donc on finit les enduits, on va faire le bas de l'isolation nous-mêmes. Et puis ensuite, on continuera ce qu'on a déjà commencé entre-temps, en parallèle, parce qu'on était très nombreux, c'est les travaux à l'intérieur pour que la maison soit habitable et vivable à l'intérieur. Donc là, il y a déjà eu pas mal d'électricité qui est très bien avancée. Et puis, il y aura encore des cloisons, de l'isolation, un peu d'isolation intérieure, des choses comme ça, qui vont avoir lieu encore pendant quelques temps.
Alors là, on passe une première couche de badigeon, c'est bien ce que j'ai compris, ce qui va éclaircir la pièce. Et voilà. Donc pour l'instant, ça fait des traits un peu moches, mais après, ça se verra plus à la seconde couche. Ça faisait un moment que aussi, enfin, ce sujet-là par rapport aux réfugiés, tout ça, me questionnait. J'avais bien envie de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et c'est vrai que d'ici, c'est pas forcément évident. Et puis du coup, c'est cool quand on peut aider dans des initiatives comme ça. Et puis, c'est une copine à moi qui m'a parlé de ce projet, qui vient faire de la cuisine ici de temps en temps. Qui m'a dit qu'il cherchait des bénévoles, tout ça, pour aller. Du coup, je suis venue. Voilà.
Ma fouille revendique les caisses, Seigneur. Renaître l'espoir dans les cœurs des jeunes Africains. Si nos dirigeants sont incompétents. On a des boucliers pour rester debout.
Voilà pour cet extrait du film que vous pouvez trouver sur internet en tapant Voix Libre Drôme, la maison d'Elisa, que je vous invite aussi à aller voir en entier parce que là on entend la bande-son du film mais on voit pas le badigeon et les gens en train de travailler, mais c'est assez remarquable. Puis moi j'y suis déjà allée, c'est une très belle maison et ça fait de l'espoir aussi de voir tous ces gens œuvrer ensemble. Et je pense qu'il y a des questions dans la salle. Il y a Charlotte qui va passer un micro sans fil pour vous permettre soit d'avoir des réactions par rapport à des choses qui ont été dites, soit des questions à nos invités et des structures qu'elles représentent. N'hésitez pas, on a un petit moment pour faire ça.
Oui, je disais, je peux compléter pour A4 parce que j'ai eu une personne qui a fait son service civique là, sur cet assaut. Et donc, simplement dire que A4 a fait un guide juridique employeur qui n'est pas accessible comme ça, parce que bien sûr c'est un peu risqué de diffuser, mais ils proposent de faire sous forme de formation, enfin de rencontre, voilà, de le diffuser de cette manière-là. Ils ont fait aussi un guide d'autodéfense pour les employés, pour que les gens sachent ce qu'ils peuvent faire s'ils rencontrent des problèmes avec leur employeur. Il m'avait bien, Noé avait bien précisé que c'est vrai que le propos d'ACAD, c'est vraiment de rendre les gens autonomes et du coup de faire en sorte qu'ils puissent créer leur propre activité. Et notamment sur Grenoble, du coup, ils ont élargi le champ d'activité. Ça n'est plus que, c'est plus simplement le secteur agricole. Il y a aussi le secteur de l'artisanat. Et du coup, ils sont en train de créer les personnes migrantes, hein, du coup. Ils les aident à créer leur propre structure pour trouver des chantiers pour travailler, voilà. Et ils développent aussi les cantines, du coup, les cantines sur des manifestations diverses et variées. Que ça soit militant ou autre festival, ou, voilà. Et sinon, qu'est-ce qu'il m'avait dit d'autre ? Ouais, il y a vraiment, enfin voilà, il insistait sur le fait que c'était important que les personnes portent elles-mêmes leur projet pour sortir aussi de la relation aidant-aider.
Merci pour ce complément. Moi, ça me donne envie de me tourner vers toi, Élise, sur la question d'un guide d'autodéfense pour les salariés ou d'un guide juridique pour les employeurs. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé à l'ASTIR ou même à R? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses que vous avez beaucoup vues ou réfléchi à ça?
Pas forcément sur des guides comme ça. Ouais, c'est intéressant. Non, nous, on a un petit fascicule plutôt avec des contacts, en fait, pour des gens qui viendraient d'arriver à Romans, savoir vers qui se tourner pour ce qui est du logement, l'ouverture des droits sociaux, enfin sur tout un tas de domaines. On a ces petits formules-là qu'on essaye d'actualiser, mais c'est voilà, autre chose.
Je pense à cette question de l'autonomie et sortir de la relation aidant-aider. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé, mais si les personnes sont toujours avec d'autres personnes, des associations, qu'est-ce que ça crée aussi en permanence? Et je me disais, à R, est-ce que vous avez pensé à ce type de fascicule ou comment vous êtes très, très présent autour des familles, mais du coup, ça repose sur la force humaine.
Oui, non, on n'a pas du tout fait de guide, tout ça. Par contre, quand la famille est accueillie, enfin, je ne sais pas quel terme il faut que j'emploie, mais on signe quelque chose ensemble en disant quel est notre accompagnement, pourquoi, jusqu'où, et bien dire qu'à un moment, la famille, enfin, on va tout faire pour qu'elle puisse prendre son envol et son autonomie. C'est-à-dire c'est vraiment ce qu'on cherche. Et c'est vrai que pour l'instant, toutes les familles qu'on a accueillies, alors là, en ce moment, ça fait 4 ans, mais ça y est, la famille vient d'avoir, même si on attend encore la carte de séjour, mais les récépissés qui sont renouvelés, qui ont tous les deux du travail, qui ont un logement indépendant, voilà. Elle n'a pas envie en même temps. Elle m'a dit, l'autre jour, quand je lui ai lu ce qu'on allait dire à l'AG, elle dit, mais vous nous abandonnez? Je dis, non, on ne vous abandonne pas du tout. Mais l'accompagnement, maintenant, enfin, vous êtes autonome, vous avez votre liberté. Enfin, je ne sais pas comment c'était aussi. Mais voilà, on sent qu'on ne peut pas lâcher les gens non plus complètement. Et oui. Il reste forcément plus de l'amitié, il reste
oui,
beaucoup
liens,
de choses qu'on
les
a
liens partagé. Perdurent, mais pas la question de l'accompagnement.
Voilà. Et puis, parce qu'on a pris la décision, du coup, comme l'appartement est libre, de le retaper et d'accueillir à nouveau une nouvelle famille.
Hélène, vous vouliez compléter?
Oui, je voulais compléter parce que c'est vrai que c'est tous une question qu'on se pose de l'ingérence de la vie chez autrui, entre guillemets. Et je voulais insister sur quelque chose parce que je l'ai suivi. À Grenoble, il y a l'association Le Caméléon qui accompagne des demandeurs d'asile au niveau de la santé mentale, qui fait des formations absolument remarquables là-dessus. Enfin, des formations, des échanges et justement pour qu'on arrive à se mettre au clair individuellement. Parce qu'on a besoin, on le vit tous, on a besoin de transmettre nos codes parce que les personnes qui sont ici ont bien besoin de les connaître. Et à la fois, on ne veut pas s'ingérer. Enfin, c'est quelque chose d'assez subtil dans la réflexion et dans l'expérience.
dans un positionnement qui soit juste pour tout le monde. Chloé, tu voulais enchaîner?
En parlant de guide, je voulais juste parler d'un guide qui vient justement de sortir, qui a été édité par le réseau Toile, qui est le réseau national des maisons accueillantes, que je recommande aussi. Si vous n'y êtes pas encore, vous pouvez peut-être rentrer dans le réseau. Et ils éditent des différents guides sur différentes thématiques. Et le dernier, il est sur les questions de domination dans la relation d'aide. Et il est juste passionnant. Et effectivement, dans nos associations, en fait... on se retrouve dans une position de travailleur social sans forcément l'avoir anticipé. Et ça pose énormément de questions sur la posture. Donc clairement, il ne faut pas rester tout seul dans son coin à croire qu'on fait ça bien. Il faut vraiment se parler entre assos, se parler entre membres et s'ouvrir à certaines lectures. Parce qu'on est, le moment où on est en surplomb n'est jamais loin, c'est certain.
Oui, ça demande une vigilance et puis surtout, il n'y a pas de cadre. Enfin, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux, ils ont de la supervision, ils ont la possibilité l'analyse de pratique, de pouvoir se référer à ce qu'ils font et à avoir un moment de recul. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent être inspirantes pour se dire, ben, même en tant que bénévole ou accueillant bénévole, on peut réfléchir à sa posture.
Sachant que là, autour de la table, il y a aussi des salariés et que la professionnalisation, c'est vraiment une question. Nous, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait dans notre asso. Donc, qui dit professionnalisation dit aussi formation, analyse de pratique, etc. Ce qu'on essaye de faire à Passerelle, ce qu'on fait à Passerelle, mais c'est ce que je voudrais dire, c'est qu'on est aussi dans un contexte, parce que quand on se dit ce qu'on veut, c'est l'autonomisation des personnes, oui, d'accord, sauf qu'on est dans un contexte qui fait tout pour que ces personnes ne soient pas autonomes. Donc du coup, on entre facilement dans un temps immensément long qui, lui, du coup, ne va pas du tout faciliter, et le terme de « vous allez nous abandonner », bah oui, forcément, on est là à se galérer pour obtenir un pauvre titre de séjour travailleur, qui est le titre de séjour le plus précaire, et du coup, on n'aide pas du tout les personnes, et c'est pour ça que le travail de A4 est génial, parce qu'il nous fait nous regarder, d'une certaine façon, et moi, j'essaye de regarder un peu précisément, je reçois leur newsletter et tout, je suis toujours là, ah ouais, ils font ça, ils font ça. Et en même temps, j'ai envie aussi de voir tout ce qui va naître, parce que ça nous ramène à se questionner sur la façon dont on fonctionne avec les personnes et ces moments de fin d'accompagnement et aussi de cadre qu'on va donner à l'accueil. Nous, on est en train d'écrire notre protocole d'accueil pour la maison puisqu'elle n'a pas encore ouvert. C'est des énormes questions et c'est des débats sans fin dans les assos.
L'important, c'est que ça reste vivant et vif dans les esprits. Pas forcément d'avoir toutes les réponses, mais que de ne pas s'endormir un peu.
On est plutôt dans un métier de questions que de réponses. Hein.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres envies de réagir dans la salle?
Oui, alors c'est plus une question qu'une réaction. Je me demandais quelles solutions vous avez peut-être pu trouver sur la question de la mobilité. Parce que moi, je connais plus le contexte, effectivement, des personnes en ville. Et c'est un frein aussi, parfois, même si elles peuvent... avoir des opportunités d'emploi en rural, parce que en fait il faut une voiture ou alors il faut un groupe de gens suffisamment important pour gérer les trajets du quotidien. Un jeune mineur, là, il peut même pas passer le permis de conduire. Et puis après, même si les personnes ont un permis, il n'est pas forcément reconnu en France. Elles savent pas forcément conduire en France aussi, hein, tout simplement. Il y a l'accès à la voiture. Voilà. Et moi, je peux citer un exemple que je connais au sud de Toulouse. Il y a des personnes militantes qui ont monté, ils ont appelé ça la Toto-école, parce qu'ils ont acheté du coup une voiture d'auto-école d'occasion qu'ils ont retapée pour pouvoir donner des cours pour des personnes de conduite pour des personnes migrantes ou pas, hein, mais qui ont vraiment des difficultés à accéder au permis de conduire, parce qu'aujourd'hui, pour trouver de l'emploi, ça fait vraiment partie un peu des prérequis dans la majeure partie des boulots, en fait.
Il y a le même genre d'initiative à Grenoble, hein, une auto-école autogérée par un groupe militant. Tout à fait. Tu voulais rebondir ?
Juste dire qu'en plus, quand on n'a pas de titre, ben, on ne peut pas repasser son permis en France, hein, évidemment. Donc, il y a énormément de personnes sans papier qui conduisent en France avec une voiture qui est assurée. Mais par contre, ils n'ont pas forcément le permis de conduire qui va avec. Ça, typiquement, c'est le genre de situation qui, nous, en tant qu'associatifs, nous met dans une position qui pose beaucoup de questions. Est-ce que je dois laisser, entre guillemets, la personne faire ça ? Et si on se dit que la personne, elle est autonome et qu'elle fait ses propres choix, oui. Sauf que qu'est-ce qui va se passer le jour où cette personne elle renverse quelqu'un? C'est tout le temps, en fait. Étant donné qu'on est sur une crête du droit, c'est tout le temps des questions comme ça qui croisent entre le droit, l'éthique, la responsabilité qu'on a des personnes, leur autonomie. Ça s'arrête jamais.
Sur le sujet de la mobilité, donc comme je le disais, nous, la plupart des salariés viennent de Grenoble. Et donc forcément, pour venir à Notre-Dame-de-Lauzier, il faut passer par le train quand le train est là.
la montagne ne s'est pas écroulée.
Voilà, donc on a cette chance d'être proche d'une gare quand même, la gare de Vinay. Mais du coup, toute l'activité de production s'est vraiment créée autour des horaires de train. Et donc, on organise des navettes en fait quotidiennes, le matin à 8h, à 13h, à 16h, selon les horaires, etc. Et donc, on a des véhicules et des personnes, des salariés ou des bénévoles qui font les navettes pour amener les personnes au train. Et quand il n'y a pas de train, ce qui a été le cas tout le mois de mars, parce qu'il y a eu un éboulement voilà, qui a coupé...
Il n'y a pas de pain, du coup?
Alors, si, si, si. Il y a du pain, mais c'est juste que les navettes se font jusqu'à Grenoble. Ah, donc, heureusement, c'est encore très rare. Mais voilà, c'est vraiment une grosse question. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres solutions. On a essayé de mettre en place du covoiturage, mais finalement, ça ne prenait pas. Donc voilà, on crée des navettes, quoi.
Oui, et puis dans le Royan aussi, je me tourne vers R, les personnes témoignent de ça, sur la question de habiter dans le Royan, ça veut dire au moins aller jusqu'à Saint-Hilaire si on peut prendre le train. Je pense à une personne qui m'a dit « mais j'ai jamais pris le train ». Donc c'est aussi voilà, un apprentissage, bon, voilà, ça fait partie de tout ça.
Oui, de toute façon, c'est un vrai problème, la mobilité, pour les personnes en exil, mais pas uniquement, en fait. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes précaires, qui n'ont pas de véhicule et on n'a pas de transport en commun. Et voilà, donc c'est un très, très... une question pour tout le monde. Alors nous, dans le Royan, les centres sociaux, enfin le centre social s'est emparé de la question et a créé... Les transports partagés, en fait, des navettes, voilà, des boucles, etc.
Des boucles, ouais.
Et puis du transport à la demande. Mais après, nous, à R, il y a aussi les bénévoles qui passent un temps fou dans les transports pour emmener un rendez-vous à l'hôpital, ça n'arrête pas, en fait, c'est en permanence. Et ça, c'est, voilà, chapeau tous les bénévoles qui font tous ces trajets, quoi.
Il y avait une autre question.
Oui, en fait, je me demandais dans le parcours du combattant que c'est d'obtenir les papiers qu'il faut pour pouvoir vivre en France pour quand on est personne migrante. En fait, est-ce que ce que vous venez de décrire, en fait, c'est déjà une conséquence de ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, qu'il y avait Retailleau là, qui avait mis un truc assez contraignant, en fait. Et du coup, je me demandais, en fait, si ce que vous avez dit, c'est déjà une conséquence de ça, ou si ce qu'il avait dit, ça va aller encore plus loin après. Et
c'est ça,
ça va, ouais. Et l'autre chose aussi qui m'interrogeait, c'était en fait, pourquoi il fait ça? C'est quoi? C'est une punition? C'est pour punir? Enfin, j'arrive pas à comprendre les motivations. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est plutôt une remarque, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de migrants parmi nous. Donc voilà.
Disons que avant, il y avait ce qu'on appelait la circulaire Valls, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Valls, je sais pas si vous en rappelez, et qui faisait des grands discours. Comme quoi l'immigration, il fallait la contrôler, machin. Et derrière, ils ont fait une circulaire qui permettait une voie de sortie pour les familles, donc vie privée, familiale. Cette circulaire, c'est amusant parce que le préfet de la Drôme, la préfète, l'ancienne préfète, c'est elle qui, à l'époque, avait écrit cette circulaire. Parce que les ministres, ils ne font pas les circulaires, ils les signent. Et elle la connaissait très bien. Elle disait, mais personne ne connaît vraiment cette circulaire. Mais cette circulaire permet de lâcher la pression de la cocotte minute. C'est-à-dire qu'on fait un discours super méchant, et puis après, on lâche un peu la pression. Et là, Retailleau, c'était exactement l'inverse. Lui, c'est mettre le bouchon.
C'est aussi d'un discours super méchant.
Oui, mais je suis d'accord. Mais au niveau de la pression, il n'y avait plus de pression possible. C'était aucune voie de sortie. C'est-à-dire... Comme on est accusé en permanence de régulariser trop de gens, d'accueillir trop de monde, ce qui est complètement faux, mais c'est pas grave, le grand remplacement, ouais, toutes ces conneries là, eh ben, on va faire un truc qui va vraiment montrer qu'on veut juguler le truc. Et donc ce qui fait que ça a coupé complètement toutes les voies de sortie. Sauf que cette circulaire, elle s'applique plus ou moins vite et plus ou moins bien. Et que les préfets, on se rend compte, ont une marge de manœuvre qui n'est pas dans la circulaire, mais qui est quand même de fait. Le préfet fait ce qu'il veut. Il faut se rappeler de ça. Et donc, quand on arrive à choper un préfet, et à le faire choper par nous, mais par les élus respectables, et on peut arriver à rentrer dans la cervelle du préfet. Et si on arrive à rentrer dans la cervelle du préfet, on peut arriver à obtenir des choses. Mais c'est au coup par coup, à la tête du client. Il y a un préfet qui m'a dit « Vous, au moins, vous êtes gentils. C'est pas comme les méchants de la STI hein, qui n'arrêtent pas de nous faire des manifs et des machins. Bon. »
On en est là, voilà, quoi.
On en est là, quoi. C'est bon, je passe droit.
Une question ?
C'est plutôt pour une précision, parce que je n'ai pas bien compris, là. Si on n'a pas de titre de séjour, on ne peut pas travailler, d'après ce que j'ai compris. Mais de l'autre côté, j'ai entendu parler de régularisation par le travail. Donc, si on présente des fiches de paye, alors je ne comprends pas, parce que si je ne peux pas travailler, je n'ai pas de fiche de paye, mais je peux présenter des fiches de paye quand même pour me régulariser.
Vous avez très bien compris, en fait.
Ah bon ?
Vous avez tout compris. D'accord. C'est exactement le paradoxe dans lequel on se situe en matière de régularisation. En fait, c'est surtout l'employeur qui n'est pas, en effet, autorisé à recruter une personne dont il sait qu'elle est en situation irrégulière. Mais en effet, la personne, pour être régularisée, doit justifier de fiches de paie nombreuses, à temps plein, supérieures au SMIC, de préférence dans un métier en tension, pour essayer d'être régularisée. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment, il y a en la matière un pouvoir discrétionnaire d'appréciation du préfet. Et ce que ça veut dire, ça, c'est que le préfet peut dire oui ou non, et que derrière, c'est extrêmement difficile d'aller contester cette décision. Donc on donne un large pouvoir à l'administration de décider de cette régularisation, quand bien même la personne aurait apporté énormément de fiches de paie et serait sur le territoire français depuis de longues années. On demande aujourd'hui de connaître extrêmement bien la langue française. Enfin, petit à petit, on voit aussi que les conditions, elles deviennent de plus en plus exigeantes.
Merci pour la réponse. Deuxième chose, j'ai des personnes que je reçois qui ne veulent pas d'aide pour l'obtention d'un titre de séjour parce qu'elles ont peur que, si elles se font un peu connaître par l'administration, elles risquent une OQTF. Et donc là, je ne sais pas quoi leur répondre.
La menace de l'OQTF qui plane,
oui,
en permanence.
Tout à fait.
Ouais. Je comprends pas. Parce que peut-être vous pouvez expliquer le contexte dans lequel vous le recevez, parce qu'on.
Non, je suis au Secours populaire de Saint-Marcellin.
Ah, vous êtes au Secours populaire de Saint-Marcellin.
Donc, okay. Je reçois donc des personnes qui sont en titre de séjour, à qui je dis à qui je propose de les aider.
Un accompagnement.
Alors pas nous personnellement, mais par d'autres associations, bien évidemment. Et elles me disent non, moi je ne vais pas faire de ça parce que sinon je vais me faire repérer par l'administration et après je risque l'OQTF.
Rester sous les radars,
voilà,
pour pas.
Donc je reste sous les radars. Voilà, tout à fait. Donc là, je ne sais pas comment faire.
Effectivement, une procédure à laquelle la réponse est non, mais je parle sous ton contrôle, est pratiquement tout le temps maintenant adjointe d'une OQTF, si le titre de séjour est refusé. Donc j'aurais envie de dire la parole de vos interlocuteurs est légitime. Après, est-ce que ça justifie le fait de rester en situation irrégulière pendant des années avec tout ce que ça implique ? Voilà, c'est là aussi où on se retrouve à pas savoir trop quoi dire aux personnes. Et c'est souvent plus à discuter sur le fond, quoi, et sur l'expérience au long cours des gens.
Oui, c'est risqué, en fait, de...
Bien sûr. Après, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent avec une OQTF en France. Hein.
Avant, l'OQTF n'avait une valeur pendant un an. Donc, vous aviez l'OQTF. Au bout d'un an, elle tombait. Alors, ça aussi, il y avait une espèce de truc comme quoi il y a plein de gens avec l'OQTF, mais il n'y a que quoi, 10% des OQTF qui sont vraiment suivis d'expulsion. Parce que c'est impossible à organiser. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, maintenant, avec la circulaire Retailleau, justement... Non seulement l'OQTF n'est pas valable que un an, mais si vous avez une OQTF, vous ne pouvez pas faire une demande pendant 5 ans. Donc ça veut dire que ça crée la peur, effectivement, que si vous avez une OQTF, vous pourrez pendant 5 ans, vous ne pourrez plus redemander quoi que ce soit. Et donc c'est des petits systèmes qui, comme ça, rendent de plus en plus difficile l'obtention de statut.
La dernière question, parce qu'on va bien devoir faire une pause avant de regarder le film.
Ouais, j'ai une petite question par rapport au paradoxe. Là. Si j'ai bien compris, donc il y a des employeurs qui délivrent des feuilles de paye, des fiches de paye à des personnes qui sont sans papier et qui vont pouvoir, du coup. Et donc, ma question, c'était par rapport au... le cas tout à l'heure, vous parliez de non-renouvellement d'autorisation de travail. Dans quelle mesure l'employeur, il peut quand même prolonger le contrat de travail ? Quel risque il prend ? C'est peut-être une question naïve, mais c'est pour voir mesurer un peu le risque et est-ce qu'on peut parler de désobéissance civile, par exemple, si on passe outre.
Alors la question s'est vraiment posée du coup à Terroloco avec le cas qu'on a eu, qu'on a expliqué auparavant. Le choix a été fait de suspendre le contrat de travail parce qu'on est, on a un agrément pour être chantier d'insertion. On dépend beaucoup de subventions publiques également pour les salaires, pour la rémunération des salariés en insertion. Et si on entre, si on fait quelque chose d'illégal, finalement, ça peut porter préjudice aux 17 autres salariés. Et on a fait le choix de, bah, de ne pas prendre ce risque-là. Donc, je ne sais pas si d'autres...
Oui, Chloé. D'autres à cette table ont d'autres. Moi, là, je ne parlerai pas du tout sur l'expérience de l'association, mais par contre, peut-être juste expliquer, parce que je pense que c'est important qu'on comprenne les différentes choses qui ont été, qui sont aussi des choses qui ont été mises en place par l'expérience, justement, des personnes exilées elles-mêmes. Il y a évidemment le système des alias. Il y a énormément de gens en France qui travaillent avec les papiers de quelqu'un d'autre, une autre personne issue du continent africain, par exemple. Et je vous recommande un film qui s'appelle Premier de Corvée, qui est absolument passionnant, qui a été réalisé par Julia Pasquale et Camille Milrand, qui sont journalistes au Monde, sur ce monsieur qui travaille pendant des années dans un restaurant. Et sur ce fonctionnement, mais c'est ce qu'on voit aussi dans l'histoire de Souleymane, hein, ce fameux garçon qui livre à vélo. Il loue en fait les papiers de quelqu'un d'autre à un compatriote. On voit aussi l'entraide entre compatriotes, c'est pas toujours hyper cool. Les gens payent très très cher les papiers de quelqu'un d'autre qui lui a un titre et du coup travaille sur le compte et donc paye des impôts. Enfin, tout le système d'impôts du coup est vicié puisque bien sûr c'est pas la bonne personne qui travaille. Enfin, vous voyez le bazar. Mais il n'empêche que, notamment en région parisienne, la CGT a été vraiment très très sollicitée sur ces questions-là et ils arrivent avec des dossiers au nom de Abdoulaye, ils vont voir l'employeur. Alors voilà, vous avez embauché monsieur Abdoulaye Bah pendant tant d'années, mais en fait, je pense que vous savez très bien que ce monsieur Abdoulaye Bah, c'est Ibrahim Sicko. Donc maintenant, vous allez refaire les fiches de paye et puis nous, on va essayer de régulariser la personne. Alors des fois, ça se passe très mal avec l'employeur, évidemment, sauf qu'en fait, il est lui-même dans une situation où il pourrait avoir un procès. Donc c'est, après, c'est un jeu de pouvoir entre syndicats et personnes exilées. Après, je voudrais pas qu'on croie que je suis en train d'encourager de faire ça, parce que clairement, c'est se mettre en tant qu'employeur dans une situation qui peut être très 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 tendue. Mais juste pour dire que le même système politique capitaliste libéral qui souhaite voir les exilés mourir en mer plutôt qu'arriver ici, c'est le même qui fait travailler ces gens dans des conditions d'exploitation et qui gagne de l'argent avec eux. Ils sont bien contents d'avoir ces personnes pour vider les poubelles, nettoyer nos assiettes à la fin d'un repas dans un resto chic. Donc voilà.
Juste pour compléter, je pense que la question de la désobéissance civile va se poser de plus en plus. Enfin,
elle se pose déjà, elle est déjà en cours.
Elle se pose déjà. C'est vrai qu'en discutant avec Emmaüs en lutte, il y a des réflexions là-dessus. Il y a le jour J, effectivement, avec nos subventions. On perd des subventions pour 18 postes, on met 18 personnes à la rue pour en sauver un. Mais je pense que si on se revoit l'année prochaine ou dans 2 ans, il y a de fortes chances pour qu'on ait à se parler de ça.
On pourrait continuer encore justement et ouvrir un autre chapitre sur la question de la désobéissance civile. Et on garde ça pour l'année prochaine.
Oui.
parce que le film va commencer dans un quart d'heure, donc je suis obligée de clôturer cette table ronde. Je voulais vraiment vous remercier tous et toutes d'être venus en ce samedi après-midi parler de vos réalités. On a vu à quel point c'est complexe, c'est noué, à quel point ça peut faire du désespoir à des endroits, et principalement pour les personnes concernées qui sont peu là, comme vous l'avez souligné. Et en même temps, c'est parce qu'on continue à lutter, à sensibiliser, on en a un petit peu parlé, mais à diffuser cette parole-là que les choses peuvent continuer à bouger. Donc merci aussi à l'équipe d'organisation de cet après-midi. Je vous rappelle que du coup, cette table ronde sera disponible dans son intégralité sur le site de radioroyan.fr dans quelques jours. Laissez-moi le temps de faire le nettoyage et je mets ça en ligne. Et du coup, ce sera aussi l'occasion de diffuser pour toutes les personnes qui n'étaient pas là cet après-midi et que ça intéresse. Voilà. Merci à Jean-Claude, super bénévole de Radio Royan, pour la technique avec Charlotte en stagiaire. Ça y est, t'as ton CAP. Et voilà. Et on se quitte sur une chanson qui s'appelle Congo de Kolinga.
Jeté dans les eaux, un peu malgré moi, l'appel est si fort que je me perds un peu parfois qui on est, où l'on va. Au moins je sais qu'un bout de mon âme demeure chez toi. Congo, à l'image de ton fleuve, ton tumulte m'émeut et arrache tous mes masques. À nu, je me jette à l'eau. Quel rôle m'offres-tu? Quel enfant suis-je pour toi, le sage ou le têtu? Celui qui t'aime en tout cas, te l'ai-je dit, le sais-tu? Congo, avec toi j'aimerais me lever. Congo, avec toi j'aimerais danser. Congo, avec toi j'aimerais avancer vers des jours plus. Présent, passé, le futur, un sentier de bohémien. Bout de toi, bout de ton âme, je suis. Ta sueur et tes larmes, j'essuie. En fond du fleuve, des forêts, des villes, les cupides ont dévoré nos vies. J'ai lu chaque ligne de la lettre à Pauline. Du fond de l'abîme, j'ai vu l'aurore opaline. Avance, je trébuche, mais j'avance vers des jours plus heureux. Je danse des rumbas raturés aux guitares saturées. Mégaphone à toute tête pour chanter. Avec toi, j'aimerais me lever.
J'aimerais avancer.